Jean-Gilbert, Rosanie, bonjour, bonjour. Lucie, bonjour. Maria, bonjour. Mireille, bonjour. Rosie, bonjour. Maria, petite question pour toi. Dimanche dernier, dans la prédication, j'ai parlé du jour de la guérison de mon père. Et je dis que dans la salle, il y avait probablement juste moi et le frère Claude Côté et la sœur Carole qui étaient là. Est-ce que tu étais présente le jour de la guérison de mon père? Je sais que tu es arrivée à l'église avant nous, là, bien avant nous. Mais je ne sais pas, est-ce que tu étais là ce jour-là? Merci Lucie. Ah, Rosie, ici, il fait moins chaud que chez vous. Ici, il va faire, je crois, 16 degrés cet après-midi, mais c'est de la pluie aujourd'hui. Farley, bonjour. Bonjour à ta maman aussi, Marie-André. Qui d'autre est là? Pour l'instant, je ne vois pas. Donc aujourd'hui, journée pluvieuse. C'est gris pour l'instant, il n'a pas encore commencé. Mais il pleuvait un peu ce matin. Donc c'est pluie intermittente. Et puis 16 degrés cet après-midi. Il faisait 8 ce matin au réveil à 5 heures. Bonjour Tati. Que Dieu te bénisse. Manon, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Content de vous avoir avec nous encore ce matin. D'accord, d'accord, Maria. Ah, je me demandais si tu étais là. Tu étais déjà à l'église, ça c'était l'époque, c'est sûr. Mais ce matin-là, ah. Ah, c'est le genre de dimanche où on se dit... Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Maggie, Eduardo, bonjour. Sylvia, bonjour. Francine, bonjour. Marie-Marthe, bonjour. Salut Guy. Alors, comme je l'ai affiché dans la page Facebook de l'Église, et puis j'ai par la suite partagé sur ma propre page, on vous rappelle que jeudi soir, 19h, on célèbre donc la Sainte Cène. C'est le jeudi de Pâques. Et puis pour respecter un peu la chronologie qui était à l'origine, donc le repas de Pâques, Jésus l'a mangé le jeudi soir. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi la célébration de la communion ou de la Sainte Cène, donc jeudi soir. Qui d'autre est là? Thérèse, bonjour. Immacula, bonjour. Merci, Tati. Shalom, la belle-mère. Non, c'est juste que j'étais en train de saluer une série de personnes, donc je regardais juste les prénoms, puis papa, bon. Désolé, mais... voilà. Mais je vous ai vous voyez malgré tout, hein? Comme d'habitude. Salut Claude. Donc, j'étais tellement content de mon petit tête-à-tête avec Marcus dimanche. Un gentil garçon. Bonjour à ma mère. Denise Gérard, bonjour. Donc, bien entendu, pour la Sainte Cène, il vous faut vous préparer. Donc, on se prépare le cœur déjà, en pardonnant et puis en demandant pardon lorsque nécessaire. Et de surcroît à cela, bien sûr, en préparant la coupe et le pain. Yezwaini, Laura, Nihao. J'espère que tu vas bien. Bonjour France, bonjour Patrick. Julie, bonjour. Bernadette, bonjour. Ce petit Marcus, Claude, mais très précieux. Nathalie, bonjour. On dirait, Claude, que plus je prends de l'âge, plus je suis amené à me rappeler combien moi-même, à l'âge des petits, j'ai été influencé par différentes personnes qui ont marqué le cours de ma vie et puis aussi les choix que j'ai faits par la suite. Donc, j'espère avoir ce même, laisser ce même legs derrière moi, dira-t-on. Julie, bonjour, bonjour à votre époux aussi. Salut Annie, bien content que tu sois avec nous ce matin, sois abondamment béni, toi aussi. Marie-André, bonjour. Myriam, Donald, bonjour. Encore une ou deux minutes. Un petit chat dans la gorge ce matin. Pour ceux qui ont leur bib, vous pouvez déjà ouvrir. On va essayer d'articuler un peu. Vous pouvez déjà ouvrir dans Exode au chapitre 3. Salut Daniel, que Dieu te bénisse. Pascal, bonjour. Passez nos salutations à maman Angela. Et aussi Jean-Bernard. Ok, alors on va prier pour commencer. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta présence qui nous environne, mais plus encore Seigneur, de ce que tu nous permets de connaître d'autres niveaux d'intimité avec toi, de voir ta présence manifeste, palpable et tangible dans nos vies. Merci Seigneur de ce moment que tu nous donnes, Seigneur, afin de pouvoir effectivement étudier ta parole, permettre à celle-ci, Seigneur, de nous abreuver, de nous nourrir, et d'apporter les changements et transformations qui sont nécessaires dans notre vie. Alors ce matin, nous nous disposons à recevoir de toi. Nous implorons ta grâce pour que tu nous permettes de saisir ta pensée. Et nous prions, Seigneur, que ta parole puisse effectivement trouver une terre dans laquelle s'implanter, qui aura été préparée adéquatement afin de recevoir, Seigneur, toute la bénédiction et toute la richesse de ta parole, afin qu'elle puisse croître et porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors, bénis ma sœur, bénis mon frère en toutes choses, que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et strictement qu'à toi nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, je relis pour vous dans Exode au chapitre 3, les versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, je reprends pour vous le verset 3. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Alors, on est en notre deuxième journée d'études sur ce passage. C'est en fait plus que deux journées, mais pour les bénédictions matinales, c'est la deuxième journée. Le pasteur Sergio, il y a deux semaines, a prêché sur ce passage. J'ai eu l'occasion, moi aussi, de prêcher sur ce passage dimanche qui vient de passer, et on reprend les grandes lignes de la prédication de dimanche en expliquant comment expérimenter la présence de Dieu. Alors, on s'est dit hier qu'effectivement, la présence de Dieu est en tout lieu, en tout endroit, en toute époque, en toute circonstance. Que nous soyons en train de faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal, Dieu, parce qu'il remplit l'univers, est constamment à nos côtés et voit toutes choses. Et c'est une chose de savoir que le Seigneur est effectivement là. Juste pour répondre à Tania, Marie-Huguette, oui, tu es bien en direct, nous sommes là. Donc, c'est une chose de savoir que le Seigneur est présent autour de nous, mais il y a un autre niveau que tout simplement cette connaissance intellectuelle, voire cette connaissance de foi, comme quoi Christ est à nos côtés. Il y a une expérimentation de l'intimité avec le Seigneur qui est possible. Il y a ce rapprochement que Dieu désire de toute éternité avec l'homme. Lorsqu'on regarde ce qui se passait dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a été créé, avant la chute de l'homme, on se rend compte que le soir venu, Dieu venait se présenter corporellement, donc une théophanie, comme on l'a vu hier, et qu'il marchait dans le jardin avec Adam et Ève, discutant, conversant avec ce qui était le plus précieux de toute la création de l'univers. Et depuis ce jour, lorsque Adam et Ève ont péché et que la communion avec Dieu et le contact avec Dieu a été brisé, Dieu a toujours voulu rétablir cette communication, rétablir cette communion avec l'homme. Et par conséquent, on se rend compte que une des choses qui nous est permis à travers la mort et la résurrection de Jésus, on le voit notamment dans Hébreux au chapitre 10, le verset 19, on nous dit qu'il a ouvert une voie à travers son corps, à travers le voile qui a été déchiré, qui nous permet d'accéder au lieu très saint. Donc à travers la mort de Jésus, cette capacité de l'homme à s'approcher de Dieu, à réouvrir, on va dire, la communion avec Dieu, nous est rendue possible. Hier, on a vu que l'expérimentation ou l'expérience de l'intimité ou de la présence avec Dieu est une expérience solitaire. Ça peut être, on peut être tous en groupe et on peut tous expérimenter cette même chose en même temps, mais ça reste une expérience tout à fait individuelle à laquelle nous devrions effectivement tous aspirer. Donc, savoir que c'est pas parce que mon époux, mon épouse, mon père, ma mère, mes enfants, mes proches, voire mon pasteur connaît la présence de Dieu, expérimente la présence de Dieu, que par conséquent, moi, je l'expérimente. C'est une question tout à fait individuelle et personnelle. On a vu dans le verset 2 aussi que ce genre d'expérience arrête le temps. C'est comme si le temps se figeait. Plus rien n'est important à part la présence de Dieu. Lorsqu'on rentre dans ce moment d'intimité avec le Seigneur, intimité profonde et extraordinaire avec le Seigneur, on ne regarde plus sa montre. S'il y avait d'autres rendez-vous qui s'en venaient, ceux-ci prennent la couleur très pâle qui devrait être la leur et cèdent le pas. Donc, à cette rencontre qu'on a sur le moment présent avec Christ. Donc, une expérience où le temps s'arrête, où le temps n'est plus une préoccupation, où ce qui vient après n'est plus une préoccupation, où la seule chose qui compte, c'est le moment présent où nous expérimentons la présence de Dieu. Et le verset 3, donc, que je relis, nous dit, « Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Trois points importants ce matin. Premièrement, Moïse ne comprend pas ce qui se passe. Moïse voit le buisson enflammé, mais qui ne brûle pas. Il le voit de ses yeux. Il comprend qu'effectivement, il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe, mais il ne peut l'expliquer et il ne sait même pas que c'est Dieu qui est en train de se manifester. Ça veut donc dire qu'il va découvrir l'intimité avec Dieu. Il va découvrir la présence de Dieu. Et ça, c'est un enseignement en soi. Malheureusement, on oublie souvent ce facteur de néophyte lorsqu'on vient au Seigneur. On prend pour acquis que tout le monde sait prier, que tout le monde sait reconnaître la présence de Dieu, alors qu'aucun d'entre nous, en fait, ne sait comment se comporter, comment se présenter, comment chercher et comment entrer dans la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu est une expérience qui est à découvrir. Même si j'ai lu des choses sur le sujet, même si j'ai étudié des choses sur le sujet, voire même si j'ai expérimenté des niveaux d'intimité avec le Seigneur à quelques reprises, ces expériences sont toujours ponctuelles et sont toujours une espèce de découverte en soi. Malheureusement, très souvent, on a cette attitude un peu de grand savant, de grand sage, et on fait comme si on connaît toute chose. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, dans cette présence ineffable de Jésus, c'est une expérience où nous sommes un peu comme un nouveau-né qui découvre. Pourquoi? Parce que lorsque je maîtrise une chose, lorsque je connais très bien une chose, j'ai le contrôle sur cette chose. Et par rapport à Dieu, aucun d'entre nous ne peut prétendre maîtriser Dieu. Aucun d'entre nous ne peut prétendre bien connaître Dieu. Nous sommes toujours au stade d'étudiant, nous sommes toujours au stade d'apprenti et nous le resterons jusqu'à ce qu'on soit dans la présence ineffable de Dieu pour l'éternité. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que nous connaîtrons toutes choses, que toutes choses nous sera révélée. Mais d'ici là, je reste dans cet état de connaisseur en devenir, de sage en devenir, de savant en devenir. Je ne connais que peu de choses concernant Dieu et il y a toujours à apprendre et toujours à découvrir. Donc la présence de Dieu est aussi une chose à découvrir. Nous ne la maîtrisons pas. Aucun d'entre nous ne la maîtrise. Même si vous me disiez que vous expérimentez toute la gloire de Dieu quotidiennement, que vous êtes entré dans sa présence à tous les jours de cette pandémie de 2 années et que vous avez expérimenté des choses qu'aucun autre homme a expérimenté, ça se pourrait. Mais encore là, vous ne connaîtriez que partiellement. Et vous ne verriez que partiellement. Vous pourriez peut-être connaître davantage que d'autres. Vous pourriez peut-être connaître davantage que l'ensemble des humains qui vous ont précédé et l'ensemble des humains qui vous sont contemporains. Mais malgré tout, puisque la Bible dit que nous ne connaissons que partiellement, vous aussi, même en étant celui qui a connu ou celle qui a connu le plus l'intimité de Dieu et de la présence de Dieu, vous ne seriez encore là que partiellement connaisseur. Ça veut donc dire que je reste dans un état d'étudiant, d'apprenti, d'élève à la présence de Dieu. Très souvent, le malheur, c'est qu'on se présente comme des gens qui ont beaucoup d'expérience et ce faisant, on oublie ce caractère de celui qui est en train d'apprendre. Quand on connaît une chose, on n'est plus obligé de l'étudier. Et lorsque je pense que je connais l'intimité avec Dieu, je pourrais tomber dans ce genre d'état mauvais dans lequel je ne cherche plus à découvrir, je ne cherche plus à connaître, je ne cherche plus à expérimenter. Pourquoi? Parce que je connais déjà. Ici, on voit donc que Moïse est dans un état de méconnaissance, dans un état où il ne connaît pas ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est similaire à vous et à moi. Par contre, ce qu'il y a de particulier avec Moïse, c'est que même s'il ne connaît pas, il va chercher à connaître. On voit bien, il dit, je vais me détourner, je vais regarder sous un autre angle, je vais quitter mon chemin qui était tracé pour m'arrêter, pour regarder et comprendre ce qui se passe. La présence de Dieu, non seulement doit être découverte, mais la présence de Dieu devrait aussi être cherchée. Ça devrait être la quête de chacun d'entre nous. On devrait quotidiennement rechercher la présence de Dieu. Si effectivement Dieu est l'être le plus grandiose de l'univers et de l'histoire tout entière, si effectivement Dieu est le plus précieux, le plus grand et le plus merveilleux des trésors, comment je pourrais m'en passer? Comment, en sachant qu'il est à portée de main, comment, en sachant qu'il veut que nous le découvrions, comment pourrais-je passer une journée sans avoir à cœur de le chercher? Malheureusement, encore là, l'homme étant qui il est, l'homme étant pécheur, les voies de l'homme étant tortueuses, très régulièrement, on vient à être un peu comme attentiste. Donc, si Dieu veut se manifester éventuellement, qu'il se manifeste et puis il saura où me trouver. On ne le dit certainement pas avec ces paroles-là, c'est un peu cru ce que je vous dis ce matin, mais c'est l'attitude très souvent qu'on affiche. Quand Dieu voudra me parler, il saura où me trouver. Il connaît mon adresse et puis il n'aura qu'à venir frapper à ma porte. La Bible nous dit que Dieu se laisse trouver par qui le cherche. Voici, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Jésus va lui-même dire, frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Donc, il y a une action qui doit être menée par l'homme pour découvrir ce niveau d'intimité avec Dieu. Pour découvrir et pour entrer dans la présence de Dieu, il doit y avoir un objectif, il doit y avoir une recherche volontaire de la part de l'homme. Et ici, on ne parle pas du salut. La Bible nous dit, c'est pas vous qui m'avez trouvé, c'est moi qui vous ai trouvé. Et là, on parle du salut. Donc, Christ est venu à nous, Christ est venu à notre rencontre, Christ est venu frapper à notre porte pour la question du salut. Quand on parle maintenant d'une question d'intimité dans la présence de Dieu, celle-ci s'obtient avec une recherche. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, je pose la question pour moi, personnellement. Est-ce que je cherche assez Dieu? Et vous direz, mais Florent, tu es pasteur, donc assurément tu le cherches. Et j'espère que je le cherche, mais je suis conscient que je ne le cherche pas autant que je le devrais. Parfois les préoccupations de la vie, parfois les horaires chargés, parfois les rencontres à droite et à gauche, les projets à mener à terme font en sorte que on met de côté ces instants dans lesquels nous devrions profiter et nous devrions chercher à entrer dans la présence de Dieu. Il y a déjà eu un sondage qui avait été fait il y a déjà plusieurs années aux États-Unis auprès de quelques milliers de pasteurs, et on se rendait compte que parmi eux, il y avait un problème d'intimité dans la présence de Dieu. Il y avait une lacune d'intimité dans la présence de Dieu. Chacun disait, oui, j'étudie la parole de Dieu pour la prédication, pour l'enseignement, mais il n'avait pas ce temps de dévotion personnelle dans lequel, à titre tout à fait individuel et personnel, non pas dans l'objectif d'enseigner, non pas dans l'objectif de prêcher, donc ce n'est pas dans le moment où ils sont en train d'étudier la Bible pour la prédication qui vient dimanche, mais d'avoir ce temps quotidien dans la prière, dans la méditation, dans l'étude de la parole personnelle. Ils n'avaient pas ce temps parce que trop occupés à faire l'œuvre du ministère pour veiller à leur propre santé spirituelle, à leur propre hygiène spirituelle, voire à leur propre intimité avec Dieu au niveau spirituel. Alors si c'est quelque chose qui guette les pasteurs, mais c'est aussi quelque chose qui guette le commun des mortels, voire le commun des croyants. Donc, si moi je me pose la question, je lance la question, mais c'est à vous la poser. Est-ce que je cherche vraiment la présence de Dieu? Est-ce que je cherche à découvrir ces niveaux plus profonds d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que je cherche à connaître cette relation intime à travers laquelle le Seigneur nous parle, nous entretient, nous fait découvrir sa pensée sur notre vie, où je suis tout simplement satisfait d'être sauvé? Je disais que plusieurs personnes très souvent viennent à la foi avec le message du salut, viennent à la foi avec le message de la repentance des péchés et du salut à travers la mort et la résurrection de Jésus, et sont tout à fait satisfaits d'être strictement sauvés, mais ne pousse pas plus loin. Et c'est malheureux de se dire que par paresse, par manque de sagesse très souvent, peut-être par manque de connaissance pour certains, ils ne comprennent pas que Dieu a tellement d'avantages à nous donner que strictement le salut. Certains vont dire, oui, mais de toute manière, ce sera simplement là-haut qu'on connaîtra toute chose. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je l'ai dit tout à l'heure. Toutefois, il y a des gens qui expérimentent déjà ici-bas sur terre un niveau d'intimité, un niveau de proximité avec Dieu qui est plus grand que leurs frères et leurs sœurs de leur propre génération. Pourquoi? parce qu'ils ont compris qu'ils devaient découvrir cette intimité et qu'ils devaient aussi chercher cette intimité. Si je ne cherche pas l'intimité avec Dieu, si je ne cherche pas la présence de Dieu, ben celle-ci va rester inaccessible ou va rester impassible par rapport à ma quête. Si je ne cherche pas à expérimenter des moments de profonde communion avec Dieu, mais je vais rester dans une espèce de relation mort-laf avec Dieu. Content d'être sauvé, satisfait d'être sauvé, mais en passant à côté de tout un tas d'expériences merveilleuses et de tout un tas de révélations qui ne viennent que par la recherche de la présence de Dieu. Alors, les deux premiers points pour ce matin, savoir que j'arrive à Dieu, je viens dans ce monde et je viens en contact avec Dieu en connaissant peu de Dieu, en connaissant peu de sa pensée et en étant appelé à découvrir davantage Dieu. Par contre, cette découverte, comme on l'a vu en deuxième point, ne se fait qu'en cherchant. Si je ne cherche pas, je ne trouve pas. Si je ne demande pas, on ne me donne pas. Si je ne cherche pas, si je ne frappe pas, on ne m'ouvre pas. Donc, il y a un principe biblique qui est enseigné depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, depuis le début jusqu'à la fin des temps, où on appelle ça la loi de la semence et de la récolte. Je récolte ce que je sème. Si je cherche, je vais trouver. Il y a des conséquences à ma recherche, et les conséquences à ma recherche, c'est la découverte et l'expérimentation de la présence de Dieu. Troisième point ici, et ça va avec le terme se détourner. Moïse va dire « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Je veux me détourner. » Le verbe « détourner » en hébreu, c'est le terme « sur ». Sur, S-U-R, qui veut dire s'éloigner, se départir de quelque chose. De quoi Moïse va-t-il se détourner pour découvrir ce qui se passe avec le buisson ardent? Eh bien, Moïse va se détourner de son agenda initial, de son horaire initial, de ses occupations initiales. On se rappelle que Moïse, et on l'a vu dans le premier verset, que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro et qu'il les a amenés jusque près de la montagne de Horeb, la montagne de Dieu. Donc, il a contourné le désert pour ce faire. Donc, il était en train de faire un périple, un pèlerinage avec ses troupeaux, avec ses brebis, et il dit « Je vais me détourner pour voir ce qui se passe. » Donc, à un moment donné, pour expérimenter la présence de Dieu, il faut aussi changer ses priorités. On est tous en train de courir après quelque chose. Parfois, on court après un mari, parfois on court après une épouse, parfois on court après un diplôme, parfois on court après une éducation, on court après une profession, ou on court après une meilleure profession, on court après un statut social, on court après la reconnaissance de nos pères, on court après bien des choses. Mais pour entrer dans la présence de Dieu, il va falloir se détourner très souvent de ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire qu'il doit y avoir un changement de priorité. En se levant ce matin, ce matin-là, Moïse avait une priorité qui était de paître le troupeau de son beau-père, d'amener ou de conduire les brebis du point A au point B, en se disant ce matin on part du point A et on arrive à telle prairie, à tel pâturage, à tel arrêt le soir venu. En cours de route, il a cette expérience du buisson ardent qui ne se consume pas. Et qu'est-ce que va faire Moïse? Moïse va abandonner le troupeau, va le laisser de côté, va laisser de côté ses occupations, va laisser de côté son planning, va laisser de côté l'objectif qu'il avait pour cette journée et va aller chercher à comprendre ce qui se passe devant lui. La présence de Dieu va changer nos priorités. La quête de la présence de Dieu va imposer un changement de priorité. Si pour toi la chose la plus importante dans la vie est la recherche d'un conjoint, d'une conjointe, mais tu risques de passer effectivement à côté de la présence de Dieu qui devrait être la priorité numéro un de l'enfant de Dieu, qui devrait être la priorité numéro un du croyant. Si pour toi la priorité numéro un est de prospérer, de bien gagner ta vie, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ça se pourrait que tu passes à côté de la richesse inhérente à la présence même de Dieu. Une richesse qui n'est pas palpable, qui n'est pas quantifiable, avec un taux horaire, qui n'est pas quantifiable avec des marques de commerce ici-bas sur Terre, qui n'est pas quantifiable avec un taux d'échange de monnaie d'ici-bas sur Terre, mais qui reste le pactole, le trésor le plus précieux qui existe pour l'homme, plus encore pour le croyant. Pour comprendre la présence de Dieu, pour comprendre ce qui se passait devant lui, Moïse a dû mettre de côté ses priorités. Est-ce que Dieu a le droit aujourd'hui de t'interpeller et de te faire changer le cours de la route d'aujourd'hui? Plus encore, a-t-il le droit? Il va le prendre. Par contre, vas-tu répondre à cette interpellation de la part de Dieu? Vas-tu répondre à ce désir que Dieu a, que tu te détournes de tes préoccupations du jour pour passer du temps avec lui? Est-ce que Dieu peut changer le cours de ta journée? Ce soir, tu rentres à la maison, après le travail, fourbu par le travail, tu décides de manger, de regarder la télévision. Dieu peut-il te dire, au lieu de regarder District 31, puisque c'est l'émission qu'il a pu regarder au Québec, au lieu de regarder ça, tu passes du temps dans ta Bible, ou tu viens te mettre à genoux au pied du lit pour parler avec moi. Est-ce que Dieu peut faire ça? Et s'il le fait, comment réponds-tu? Est-ce que tu réponds à Dieu, « Ouais, mais Seigneur, ça finit à 7h30, ça finit à 19h30, tu auras toute mon attention après 19h30, où a-t-il ton attention tout de suite? » Est-ce que tu réponds à Dieu en changeant les priorités de ta vie? Ce qu'on se rappelle, et je l'ai illustré comme cela dimanche dernier, on nous parle à un moment donné du royaume de Dieu. Et on dit le royaume de Dieu est comme un homme qui découvre une perle dans un champ. Et il va aller vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ dans lequel se trouve la perle la plus précieuse qui soit. Ça veut donc dire que cet homme-là avait des priorités, avait une façon de faire, avait un fonctionnement qui était sans le champ et sans la perle en soi. Mais il a laissé de côté, il s'est départi de tout ce qu'il avait, il a changé ses priorités, il a vendu ses entreprises, il a vendu sa maison, il a vendu ses terrains pour aller acheter le terrain dans lequel se cachait cette perle plus précieuse que toutes les autres perles. Ce trésor plus précieux que tous les autres trésors. Il s'est donc départi de ses responsabilités et priorités pour acquérir le champ dans lequel se trouvait ce précieux trésor. Est-ce que nous sommes prêts à ces choses-là? Est-ce que je suis prêt à laisser de côté le temps de 19h à 19h30 où District est présenté à la télévision? Est-ce que je suis prêt à changer ça et à dire non, je m'en vais passer du temps avec Dieu? Est-ce que Dieu peut m'exiger, me demander, me dire, Florence, si tu veux parler avec moi, si tu veux me découvrir, samedi soir, c'est pas une partie de hockey que tu vas regarder, mais c'est à genoux, à côté de ton lit, à chercher ma face pour que tu me découvres, que tu me cherches et que tu me trouves. Est-ce que Dieu peut changer les priorités? L'homme à la perle précieuse a changé ses priorités pour acquérir le champ. Est-ce que je suis prêt à le faire moi aussi? Est-ce que Dieu va trouver quelqu'un qui est disposé, qui est volontaire pour effectivement abandonner ses priorités pour celle de la recherche de la présence de Dieu? Alors qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que la présence de Dieu n'est pas une chose innée, qu'elle doit être découverte. Ce n'est pas un savoir qu'on connaît à la naissance, c'est quelque chose que l'on découvre graduellement puisque nous serons, jusqu'à ce que nous soyons là-haut avec lui, nous serons toujours dans cet état d'apprenti, dans cet état d'élève, d'étudiant de la présence de Dieu. Donc une chose à découvrir. Deuxièmement, on a vu que c'est une chose à chercher. Je peux être conscient que je ne connais pas, mais si je ne cherche pas à connaître, ben je n'apprendrai pas. Donc, en tant qu'apprenti, en tant qu'élève, on doit chercher. La Bible nous dit, je me laisse trouver. Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et enfin, c'est une expérience qui, à l'instar de Moïse, va changer les priorités. Jusqu'alors, il était berger. Jusqu'alors, il prenait soin du troupeau de son beau-père. Et là, il va dire, je laisse de côté le troupeau parce que je dois comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'était la manifestation de la présence ineffable de Dieu. Donc, une expérience qui change les priorités de notre vie. Je vous parlais dimanche de ce moment, et on l'a mentionné tout à l'heure, et je m'arrêterai là-dessus, de ce moment où mon père a été guéri de la sclérose en plaques. C'était à la fin des années 70, début des années 80. J'avais 7 ans. Donc, ça devait être en 78 ou 79. Mais il risque de me dire que je me trompe. Donc, j'étais très jeune. Voilà. C'était au mois de novembre. Et je vous ai dit, mon père a eu un moment d'éternité dans lequel, effectivement, il est à l'église. Tout le monde est en train de prier pour lui. Il ne marche plus. Depuis ce dimanche-là, il est traîné par des frères pour l'amener jusqu'à sa chaise. Devant, plus capable de se mouvoir, et ce matin-là, on prie pour lui. Il marche jusqu'à l'arrière de l'église et il revient à son siège. Et la seule chose qui se rappelle, c'est lorsqu'il est devant son siège, les bras en l'air. Donc, il se rend compte qu'il a dû se passer quelque chose, mais lui n'a pas conscience qu'il marche jusqu'à l'arrière et qu'il revient. Donc, un temps qui est arrêté, un moment qui est figé dans l'éternité. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des conséquences à un tel temps. Le soir venu, ça c'était le matin, la guérison, le soir venu, quand on était de retour à l'église, à cette époque-là, on n'était pas très nombreux. Donc au mois de novembre, on commençait à dire aux gens, si vous avez des témoignages, ben, chaque famille va passer d'ici la fin de l'année pour donner un mot de témoignage. Et ce dimanche-là, par hasard, entre guillemets, bien planifié par Dieu, c'était notre famille qui devait donner un témoignage le soir venu. Tout simplement dit, avec tout ce qui s'est passé ce matin, je ne peux dire qu'une seule chose, à l'instar de Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc ce temps figé, ce temps d'expérimentation de la présence intime de Dieu a changé les priorités de notre vie jusqu'à ce moment-là. Mon père avait travaillé toute sa vie dans les cuisines. Il était chef, il avait été superviseur pour une série de grands réfectoires ici au Québec. Il avait été chef de plusieurs restaurants bien classés ici à Montréal. Ça a changé les priorités de son existence. Il est par la suite devenu pasteur et on l'a suivi. Ma sœur travaille à Narbonne en France avec mon beau-frère. Ils sont responsables d'une église et vous savez quel est le rôle que j'occupe au sein de l'EAJC ou de l'Église des Apôtres de Jésus-Christ. Donc les priorités ont changé suite à cette rencontre, tant pour lui que pour l'ensemble de la famille. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va prier. Et puis encore, je vais prier ce matin que vous puissiez expérimenter ce moment merveilleux de présence de Jésus à vos côtés. Alors merci Seigneur de ce que tu nous apprends, tu nous enseignes, tu nous éduques. Merci Seigneur parce que tu nous permets de comprendre que rien n'est acquis. Nous ne venons pas dans ce monde avec une connaissance innée de ta présence. Tes disciples se sont approchés de toi un jour et ils t'ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Je veux donc dire qu'eux qui étaient à côté de toi ne savaient pas non plus comment prier adéquatement. Alors nous aussi, Seigneur, à notre génération, dans notre partie de l'histoire humaine, nous sommes aussi dans le même constat. Nous connaissons très peu de toi, nous connaissons minimalement de toi et nous avons besoin de te découvrir. Alors oui, Seigneur, nous comprenons que nous avons besoin d'apprendre, que nous avons besoin que tu te révèles à nous. Mais nous comprenons aussi, Seigneur, que tu ne te révèles qu'à celui qui te cherche. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Alors, Seigneur, on fait le constat de ce que nous connaissons peu et on prend l'engagement aussi, Seigneur, de te chercher davantage. On prend, Seigneur, l'engagement de prendre le temps, de faire les efforts, d'accorder la priorité de notre vie à cette recherche de la présence de Dieu. Et nous comprenons aussi, Seigneur, que lorsque nous te rencontrerons dans ces moments d'intimité, il y a bien des choses qui vont changer dans notre vie. Tu risques, Seigneur, de changer le cours de notre existence dans son horaire, dans ses objectifs, dans ses priorités, dans ses activités, dans ses désirs, dans ses aspirations. Et nous te disons, Seigneur, tu es le maître. Alors guide-nous, dirige-nous, échange ce qui doit être changé. Et si, Seigneur, tu veux changer totalement le cours de notre existence, qu'il en soit ainsi, parce que ce que tu fais est parfait. Alors je prie, Seigneur, pour ma sœur, pour mon frère qui nous écoute ce matin, je prie, Seigneur, qu'ils aient cette rencontre très personnelle, très privée, très individuelle, avec le buisson ardent, quelque forme que prendra ce buisson ardent, une rencontre exceptionnelle avec le roi des rois, une rencontre qui va changer leur vie, qui va changer le cours de leur vie. Et en toute chose, Seigneur, je te dis merci, parce que je sais que ces moments d'intimité avec toi sont des moments précieux et riches. Alors que toute la gloire te soit rendue, nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors, petit rappel, ce soir, 19h, il y a le cours sur les fondements chrétiens avec le pasteur André. Demain soir, 19h, rendez-vous pour l'étude biblique. Et jeudi soir, 19h, c'est le jeudi de Pâques, à l'instar de Jésus qui l'a fait aussi un jeudi soir avec ses disciples. On va célébrer la Sainte Cène, on va briser le pain, partager la coupe, donc on vous demande d'être prêt. Ça sera en ligne uniquement à partir de 19h. Ne soyez pas en retard parce que ça va être l'essentiel de notre temps. Ce ne sera pas très long, mais c'est un temps de recueillement et un temps pour commémorer la mort de Jésus, notamment parce que c'est le week-end de Pâques qui suit. Donc 19h, jeudi, sur toutes les plateformes internet de l'Église, on prendra le pain et la coupe. Donc on vous demande non seulement de préparer les items importants, donc un peu de pain, une coupe de jus de raisin ou de vin à votre élection, mais surtout de préparer vos cœurs. La Bible nous dit qu'on ne doit pas prendre la Sainte Cène de mauvaise manière, donc on doit être capable d'avoir pardonné, voire même d'avoir demandé pardon à ceux qu'on aurait offensés. Donc, et je vais pousser la chose un peu plus loin. Quand on accorde le pardon, ce n'est pas simplement à ceux qui sont vivants autour de nous. On relâche aussi toute personne qui nous aurait offensés. Le fait que quelqu'un soit mort ne règle pas notre problématique de manque de pardon. Donc, si je n'ai pas pardonné quelqu'un qui est mort et si je ne veux pas pardonner quelqu'un qui est mort, même si dans sa vie à lui, ça ne change rien, mon manque de pardon me fait en sorte que moi, je ne suis pas en règle devant Dieu. Donc, je vous invite à pardonner quiconque vous aurez offensé, qu'il soit encore vivant ou qu'il ne soit plus de ce monde. Vous devez pardonner. Ça en va de votre de votre statut devant Dieu, ça en va de votre droit à prendre part à la Sainte Cène. La Bible nous dit que pour avoir pris la Sainte Cène inadéquatement, de façon inadéquate, certains sont tombés malades et certains même sont morts. Donc, on veut vous rappeler le sérieux de la chose. On ne s'approche pas de n'importe quelle manière de la table du Seigneur. Donc, assurez-vous d'être en règle avec Dieu et avec vos frères et sœurs ou congénères de cette génération-ci. Alors, voilà ce qu'on avait pour aujourd'hui. On se retrouve pour nous demain matin pour la bénédiction matinale du mercredi. Sinon, ce soir, 19h avec le pasteur André pour le cours sur les fondements chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.